possible de faire.
Mais, Monseigneur, merci beaucoup d'être parmi nous. Donc, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, qui est évêque auxiliaire de Paris, et puis qui a travaillé beaucoup sur Henri de Lubac. Vous avez fait votre thèse s'appelle Anthropologie et mystique selon Henri de Lubac. Et ce soir, vous allez nous parler de la théologie de Henri de Lubac, notamment à partir de d'une de ses œuvres majeures, enfin, je ne sais pas si vous voulez dire majeure, enfin, une de ses grandes œuvres, le drame de l'humanisme athée. Bah, donc, merci d'être avec nous.
C'est moi qui vous remercie, qui remercie le Père Jouffel de cette invitation, qui me permet de revenir à mes premières amours, parce que, on va dire, j'ai toujours le loisir de relire le Père de Lubac, mais quand je le fais, j'ai l'impression de revivre un peu, donc je vous remercie de m'en avoir procuré l'occasion. Même si je n'ai pas pu autant relire que j'aurais voulu pour pouvoir préparer cette soirée. Donc je sais que vous le lisez au moins par morceaux, distribué soigneusement, si j'ai bien compris, par le père Urfels. Ça qui, à défaut de pratiquer l'anthropophagie, vous nourrit quand même régulièrement de petits morceaux découpés soigneusement. J'ai compris aussi que vous avez eu quelques conférences déjà un peu sur le sujet, donc vous êtes censé enfin, vous savez un peu qui est le père de Lubac et donc sa vie, ce qui me permet de me concentrer un peu sur ce livre. Alors, le drame de l'humanisme athée, de fait, c'est une œuvre importante de Lubac, en tout cas, enfin, c'est une œuvre importante du père de Lubac parce qu'elle permet de. Elle cristallise beaucoup de ses intuitions. C'est une œuvre qui a eu beaucoup d'influence, en tout cas, dans les années d'après-guerre. Et dont se sont nourris quelques générations d'étudiants catholiques, sûrement, pas seulement, j'espère, notamment dans le contexte de l'après-guerre, de la confrontation à tout un athéisme, notamment marxiste. Ce livre est un, comme beaucoup de livres du père de Lubac, est un, au point de départ, un recueil de conférences. Qu'il a plus ou moins noué ensemble. Je suppose que Madame Cholvy, en vous présentant un peu la vie du père de Lubac, vous a expliqué que la grande œuvre du père de Lubac, enfin la première grande œuvre du père de Lubac, c'est Catholicisme, qui part en 1938, qui est aussi fait au point de départ de la mise ensemble d'un certain nombre d'articles, de conférences, etc., mais repris dans un plan d'ensemble et unifié d'une manière que, bon, voilà, avec les yeux de Chimène, je qualifie d'assez génial. Pour ce qui est de catholicisme, ce qui fait qu'on ne se rend pas toujours compte que c'est fait de pièces et de morceaux, mais néanmoins ça l'est, c'est assez important. Le père de Lubac a toujours revendiqué de ne pas avoir fait une œuvre systématique, mais ce qu'il appelait une théologie d'occasion, c'est-à-dire en répondant à des occasions, à des commandes, ou bien à ce que les événements imposaient. Donc le drame de l'humanisme athée, en fait, naît... d'un certain nombre de conférences faites pendant la guerre, et puis repris ensemble au moment de la libération, dans un livre dont j'ai ici un exemplaire qui est assez typique. Mais je dois vous confesser que j'ai dû l'emprunter à un de mes camarades vicaire général, parce que moi-même, je n'ai pas retrouvé mon propre exemplaire, qui partait en morceaux. Vous savez, c'était du mauvais papier d'après-guerre. Et donc, en fait, il se délite complètement. Au bout d'un moment, il n'en reste plus. Chaque page tombe en poussière, voilà. Un point aussi peut-être assez important, c'est que quand Lubac écrit déjà Catholicisme en 1938, comme il est né en 1896, c'est déjà un homme mûr, si vous voulez. Voilà, c'est pas des œuvres d'un tout jeune homme qui sort son intuition. Déjà Catholicisme, mais a fortiori le drame de l'humanisme athée, c'est l'œuvre de quelqu'un qui a vécu des choses importantes, des choses dures, en particulier pendant la Première Guerre mondiale, où il a été mobilisé, blessé sur le front de Verdun, etc. Et puis, qui a vécu très intensément la période de l'entre-deux-guerres. Et puis, qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc, a joué un rôle assez important dans ce qu'il appelait la résistance spirituelle. Qui s'est organisé, disons, autour de la figure d'un certain père Chaillet, qui était un jésuite, et des cahiers du témoignage chrétien. Le père de Lubac a au moins deux reprises a dû quitter Lyon un peu précipitamment pour aller se cacher ou en tout cas se réfugier un peu au-delà, parce qu'il était menacé d'être arrêté par la Gestapo ou par la milice. En fait, je dis ça parce que, pour bien comprendre ce livre, il faut comprendre, je crois, qu'il s'adresse avant tout aux catholiques eux-mêmes. C'est ce que Lubach dit, il explique ça au début de son livre. On peut dire que c'est un livre de combat. Je ne dirais pas que c'est un livre polémique, mais c'est quand même un livre de combat. Mais c'est un livre de combat contre la tentation de l'athéisme qui peut, contre la tentation ou la fascination que certains athéismes peuvent exercer sur les catholiques, et en particulier, disons, sur la jeunesse catholique dans le contexte de la guerre. Alors, ces athéismes, il y a toujours un peu le nazisme, forcément, en arrière-fond, et puis le marxisme. Donc, beaucoup des œuvres du père de Lubach doivent se comprendre comme ça, comme un effort pour aider les chrétiens à se réapproprier la tradition chrétienne de manière vivante, dynamique, pour dépasser la fascination ou l'impression très forte que des pensées autres peuvent exercer sur les chrétiens. Il a une formule dans l'avant-propos qu'il explique bien, voilà. Il s'agit donc avant tout d'une prise de conscience proposée aux chrétiens de la situation spirituelle du monde où ils sont engagés. Voilà, donc, il est important de comprendre cela parce que Lubach ne fait pas une analyse complète du nietzschéisme, une analyse complète du marxisme, vous voyez, ou une analyse complète... Enfin, son analyse du comtisme est beaucoup plus ample, j'essaierai d'en dire un mot et d'expliquer pourquoi. Mais il explique là dans le paragraphe précédent, il s'agit pour lui d'essayer de mettre à nu une attitude de base de ces athéismes pour ouvrir un peu les yeux des chrétiens, et en particulier donc des jeunes chrétiens. Mais il est conscient aussi, et il essaie d'en tenir compte, que les systèmes auxquels il s'oppose, enfin, qu'il affronte ainsi, disons plutôt que dire qu'il s'oppose à eux, disons, les systèmes qu'il affronte ainsi, contiennent des provocations importantes pour le christianisme qui obligent des esprits chrétiens à réfléchir, contiennent éventuellement même des richesses, des choses, des aspects intéressants, importants, qui méritent d'être pris en compte, qu'il faut surtout que les chrétiens, voyez, ne soient pas dupes de ce qui est en jeu. Alors, ce qu'il essaie de montrer, je ne sais pas quels extraits le père Urfeld a sélectionné pour vous, mais ce qu'il essaie de montrer, il le dit là aussi, tout est dit d'une certaine façon dans l'avant-propos. Ce qu'il veut montrer, c'est que tout commence par une option. Il a cette formule. Tout commence par une option et par un ressentiment. Ce qu'il veut montrer, c'est que les humanismes athées, souvent se présentent comme extrêmement scientifiques, ou se présente comme une sorte de conclusion inéluctable des prémices qui sont posées au point de départ. Le père de Lubach essaie de montrer, c'est l'angle sous lequel il les aborde dans le catholicisme, parce qu'en fait, il y a chaque fois au point de départ quand même une option de refus de Dieu que rien n'explique, qui n'est pas la conclusion de tout un système qui aurait démonté la religion, qui aurait démontré l'inexistence de Dieu, mais qui est plutôt le point de départ de la construction de toute une manière de regarder le monde. Voilà. Et par conséquent, dans le regard posé sur le monde, il y a des tas de choses intéressantes, justes, qui peuvent être vues, mais il est important d'être conscient que le point de départ de ce regard, c'est quand même un refus de Dieu. Et donc, deuxième aspect, deuxième niveau, c'est aussi un ressentiment au sens où le moteur de ce refus, c'est la conviction, non forcément complètement raisonnée ni élaborée, la conviction que la liberté humaine ne pouvait se gagner que par le refus de Dieu. Voilà, donc ça c'est une ligne que Lubach a, enfin qui traverse tout le livre Le drame de l'humanisme athée, et que Lubach a décliné ensuite dans d'autres écrits, qu'il faut mettre en série, pardon, avec Le drame de l'humanisme athée, qui permettent de situer les livres les uns par rapport aux autres. Il y a un texte que je crois assez important de Lubach sur Proudhon, qui est aussi le résultat de travaux faits pendant la guerre, commencé avant la guerre, disons, et achevé pendant la guerre, parce que chez Proudhon, Lubach voit un antithéiste, mais un antithéiste qui aide à croire en Dieu, si vous voulez. On pourrait dire ça comme ça. Qui n'a pas ce côté de ressentiment, de espèce de jalousie à l'égard de Dieu que Lubach discerne, disons, chez les autres. Lubach a aussi étudié Nietzsche encore, enfin, publié d'autres études de Nietzsche dans un petit volume qui s'appelle Nietzsche mystique. Et puis, par rapport à la pensée marxiste et ses développements, on trouve aussi des choses dans... à la fin, c'est la vie, c'est l'essence de l'homme, et là, il m'en manque un entre les deux. Enfin, il y a une grande conférence sur l'idée chrétienne de l'homme, mais qui est une conférence qu'il avait prononcée aux Semaines sociales de 1947, et qui prend comme point de départ une sorte de réfutation de l'idée marxiste de l'homme. Donc voilà... il me semble la perspective d'ensemble de ce livre. On voyait un livre qui n'est pas un livre d'analyse philosophique de ces auteurs, des auteurs qui l'étudient, qui ne prétend pas dire tout ce qu'il y a à dire sur ces auteurs, même d'un point de vue chrétien, mais qui veut ouvrir les yeux des chrétiens sur ce que ces pensées athées portent de... Donc de choix spirituel, avec l'idée que d'en être conscient peut donner à des chrétiens la liberté de repérer les éléments qui peuvent les intéresser, qui peuvent les nourrir. Et alors, dans ce livre, comme vous savez, Lubach traite assez rapidement de Feuerbach, de Feuerbach et de Marx. Un peu plus longuement de Nietzsche, très longuement de Comte, et c'est un peu rasoir, mais Comte c'est rasoir, donc forcément celui qui étudie Comte ne peut pas écrire quelque chose qui ne soit pas un peu ennuyeux. Et puis à la fin, enfin je dis ça, j'ai jamais lu Comte en direct, mais visiblement. Et puis il y a une longue, ça se termine par une longue étude de Dostoïevski. Donc ça fait, donc effectivement, comme le disait l'un d'entre vous tout à l'heure, pendant le repas, ça fait un livre un peu composite. Donc c'est le côté pièces et morceaux dont je parlais. Toutes les parties ne sont pas absolument équilibrées. Et puis on se demande un peu ce que vient faire Dostoïevski là-dedans, parce qu'il n'est pas complètement en série avec des philosophes. Mais précisément l'idée de Lubach, c'est de montrer, voyez, une autre manière de regarder la réalité humaine, non moins suggestive, non moins éclairante en fait, non moins pleine de raison, même si elle ne s'exprime pas sous une forme rationnelle, mais sous la forme des romans ou de ces espèces d'essais dont Dostoïevski était coutumier. Et de là, ce que Lubach essaie de montrer à son lecteur, oui, c'est la possibilité de regarder le monde autrement, et d'une manière plus, alors qu'est-ce qu'il faut dire, plus existentielle, plus humaine, plus complète, plus ample. Là encore, il explique un peu dans l'avant-propos. Je cherche le passage. Qui me paraissait, par exemple, ici. donc, Dostoïevski n'est qu'un romancier, il n'apporte point de système, pardon. Il ne fournit aucune solution au terrible problème que pose notre siècle l'organisation de la vie sociale. C'est, si l'on veut, une infériorité, sachant, du moins reconnaître la signification d'un tel fait. Alors, c'est ça la phrase que je cherchais. Il n'est pas vrai que l'homme ne puisse organiser la terre sans Dieu. Il y a quelquefois des bons esprits, des bons cathos, voilà, disent en fait, il est impossible d'organiser la terre sans Dieu. Lubac dit non, on peut très bien organiser la terre sans Dieu. Mais ce qui est vrai, c'est que sans Dieu, l'homme ne peut en fin de compte que l'organiser contre l'homme. Voilà, donc ça c'est la thèse, c'est ça qui sous-tend le titre « Le drame de l'humanisme athée ». Si Lubac parle ainsi, c'est que drame, comme vous le savez, c'est pas la tragédie, c'est un combat, disons, qui met en œuvre la liberté humaine. Mais le drame de l'humanisme athée, c'est que l'humanisme athée veut libérer l'homme, aider l'homme à entrer en possession de lui-même, mais au bout du compte, il ne peut le faire, au bout du compte, quoi qu'il en soit de toutes sortes d'étapes et de développements, et quoi qu'il en soit des raisons qui l'ont motivé, au bout du compte que contre l'homme, qu'en étouffant toute une partie de la réalité de l'homme. Alors, dans ce paragraphe-là, que je voudrais commenter un petit moment, Lubac exprime assez précisément ce qui tend et ce qui sous-tend son œuvre. Je trouve que c'est important de voir ça. Donc, il insiste dans la suite pour dire que la foi en Dieu, cette foi que nous inculte le christianisme en une transcendance toujours présente et toujours exigeante, n'a pas pour fin de nous installer commodément dans notre existence terrestre pour nous y endormir, quelque fiévreux que doit être notre sommeil. Bien plutôt, elle nous inquiète, donc la foi en Dieu nous inquiète, et vient rompre incessamment le trop bel équilibre de nos conceptions mentales et de nos constructions sociales. Alors, ça aboutit à cette formule, il reprend la formule du Christ, « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. » Et il commente, « Le Christ est d'abord le grand troubleur. » Voilà, ça, c'est une idée que, personnellement, je trouve très éclairante chez Lubac. Il y a, si vous voulez, un problème humain, où l'homme est à lui-même un problème, et c'est un beau problème. Et le Christ, pour Lubac, ne vient pas simplifier le problème. Il vient plutôt le compliquer, le rend encore plus problématique. Et il me semble qu'une des richesses de la pensée du père de Lubac, c'est précisément de nous faire comprendre, enfin d'essayer de comprendre comment la foi dans le Christ nous fait toujours chercher un Christ plus grand ou Dieu plus grand et aussi l'homme plus grand, vous voyez, ou l'homme plus riche. Et non pas croire que nous allons trouver un système ou une manière d'être, une manière de vivre qui va tout résoudre ou apaiser tous les désirs ou apaiser tous les conflits. Mais au contraire, il s'agit de les renouveler toujours. Alors, Lubac précise un peu ce qu'il veut dire. Donc, le Christ est d'abord le grand troubleur. Cela, certes, ne veut pas dire qu'il n'y ait, découlant de l'Évangile, une doctrine sociale de l'Église. Encore moins cela tente-t-il à détourner les chrétiens de chercher à résoudre les problèmes de la cité. Ils s'y trouvent au contraire poussés par une nécessité de plus. Mais ils savent en même temps que la destinée de l'homme étant éternelle, il ne doit point trouver ici-bas de repos. La terre qui sans Dieu ne pourrait cesser d'être un chaos que pour devenir une prison, est en réalité le champ magnifique et douloureux où s'élabore notre être éternel. Voilà donc toute la visée du livre, et c'est à ça que sert Dostoïevski. Oui, c'est arriver à convaincre de bons petits Français, voilà, des années 40, si vous voulez, qu'il y a plus en l'homme, il y a encore plus à chercher que ce qu'il s'imagine. Et que les idéologies qui sont devant eux ont l'air d'apporter une certaine exaltation de l'homme, qui est assez grisante, que ce soit dans le marxisme, que ce soit dans un certain fascisme. Et c'est peut-être pour ça que ce soir, nous sommes dans une salle qui a abrité le salon du livre antifasciste. Par certains côtés, ce livre est un livre antifasciste, enfin, plus que par certains côtés, il l'est, c'est évident. mais qu'en réalité, chrétienne, enfin, d'un point de vue chrétien, et s'ils se laissent conduire par leur foi chrétienne, eh bien, ils découvriront, vous voyez, que l'homme est encore, que le problème humain est encore plus riche, plus passionnant, plus que tout ce que les autres, que tout ce que les idéologies peuvent montrer. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas, voilà, moyen de trouver dans l'Évangile et dans la doctrine de l'Église, par conséquent, et dans la vie chrétienne, des moyens d'apaiser la vie sociale, etc. C'est-à-dire que l'aventure humaine est à vivre avant tout comme une aventure intérieure et ne nécessite pas nécessairement de passer justement par la révolution, par le sang, par la violence, etc. Donc vous voyez, on est dans un contexte très précis. Historique, ce livre est un livre, par certains, à bien des égards, extrêmement situé historiquement. Donc peut-être que tout l'intérêt de ce qu'il y a essayé d'en dire, c'est de dire en quoi il peut concerner des jeunes du XXIe siècle, puisque nous ne sommes plus en 1940. Nous n'avons pas forcément, nous ne faisons pas forcément face aux mêmes situations et aux mêmes problématiques. Mais pour ma part, je crois que le principe de la réponse à cette question, c'est, si vous voulez, que l'effort pour recevoir de notre foi chrétienne une vue toujours plus, vous voyez, plus riche, plus exigeante, plus décapante aussi de notre réalité humaine, il est toujours à refaire. Et ce que Lubach propose à la génération des années 40, en fait, peut beaucoup, je crois, éclairer ce que votre génération aura à faire et a à faire face à tous les athéismes ou les humanismes. Je ne sais pas si les humanismes d'aujourd'hui sont athées ou si les athéismes d'aujourd'hui sont des humanismes. Peu importe. Enfin, on peut toujours en discuter, je n'en sais rien. Quelles que soient les étiquettes que l'on peut poser sur toutes sortes de visions du monde qui fleurissent. Il me semble que l'effort des chrétiens, en tout cas que Lubach nous montre, vous voyez, que l'effort des chrétiens peut et doit, d'une façon, toujours être de se laisser conduire à poser le problème humain d'une manière encore plus ample, encore plus large, encore plus profonde, encore plus exigeante, etc. Et voilà, sa pensée, je crois, nous aide fortement à cela. Alors, après, comment le livre est-il construit ? Bon, il y a des aspects, comment dirais-je, de conférencier qui honore le programme qui lui est offert, et puis d'autres qui sont un peu liés à la fois au contexte et puis à la solution. Donc, faisant l'histoire de ce qu'il appelle l'humanisme athée, il ne peut pas ne pas parler de Feuerbach et de Nietzsche. Donc, si différents. Alors, Feuerbach, Marx, puis Nietzsche. Donc, chez Feuerbach, et par conséquent chez Marx, même si c'est de manière différente, la forte revendication de réapproprier à l'homme ce que jusque-là l'humanité a projeté en Dieu, finalement, et de permettre à l'humanité de réintégrer toute sa dignité, mais de le faire à partir d'elle-même, de le faire de manière une manière qui se veut scientifique. Lubach a toujours crédité Marx d'avoir pressenti ou compris que l'homme était une réalité spirituelle et posait un vrai problème spirituel. Il reproche, je vais le dire un peu plus loin, mais il reproche à Comte d'être passé à côté de la, vous voyez, de la densité spirituelle de l'homme. Mais voilà, Marx, lui, pour Lubach, sent qu'il y a un enjeu spirituel à la vie humaine, mais il prétend, voilà, que d'approprier la révolution, et que la révolution va résoudre en quelque sorte ce problème, qui est un problème de superstructure, et que la religion ne peut pas l'honorer, ce problème. Voilà, donc Nietzsche, c'est un autre genre d'athéisme, évidemment, que Feuerbach et Marx. Donc si Lubach y consacre cette étude qu'il y consacre ici, et puis d'autres études après. C'est évidemment à cause de la proximité quand même de la pensée nazie avec, le, disons, un certain nietzschéisme. Lubach sait bien hein, que Nietzsche ne se résume pas à ce que les nazis ou les fascistes ont pu en faire. Mais en tout cas, il y a incontestablement, et il y avait dans la jeunesse à laquelle il s'adressait, ou en tout cas qu'il visait, il pouvait y avoir une sorte de transition, si vous voulez, entre Nietzsche et puis ce que la propagande nazie essayait de mettre dans les esprits. Vous voyez, dans l'avant-propos, là, de nouveau, Lubach dit que la pensée de Nietzsche offre, enfin il dit, il est incontestable, ou nous n'ignorons pas, voilà, que la pensée de Nietzsche offre un foisonnement de ressources pédagogiques, au sens le plus profond du mot, d'une extraordinaire richesse. Bien des éléments s'y rencontrent, sur lesquels un chrétien n'a pas comme tel à prendre position, etc. Donc Nietzsche voyait comme un foisonnement de ressources pédagogiques, au sens le plus profond du terme. Si je comprends bien, ça ne veut pas dire que Nietzsche serait un bon manuel pour les maîtres d'école, hein, ou pour les professeurs même d'université. Mais je crois que ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a chez Nietzsche un aspect de comment est-ce qu'on pourrait dire ça, de bréviaire, si vous voulez, pour la vie humaine. Pour une vie, justement, un peu audacieuse, un peu forte, pour un homme qui veut un être humain, en tout cas, qui veut se prendre en main à partir de sa liberté, et pas simplement rester comme ça dans le cadre de ce que la pensée, la convenance, la bienséance lui impose. Mais Lubach va essayer d'analyser, de montrer, en tout cas, espèce de le rapport de fascination et de haine entre que Nietzsche cultive à l'égard du Christ, à l'égard de Jésus, et le rapport un peu bizarre, même d'identification en quelque sorte inversée que Nietzsche porte à l'égard de Jésus. Par un côté, il me semble que c'est par rapport à Nietzsche, sans doute, et sans doute à Comte, aussi que Dostoïevski est le plus nécessaire, voilà, au projet de Lubach. Alors Comte fait l'objet d'une analyse assez longue et qu'on peut trouver donc un peu ennuyeuse. Je le redis. Donc c'est en partie parce que le comtiste Auguste Comte, c'est le fondateur du positivisme. Donc on sait bien comme la postérité dans toute la pensée de la Troisième République, et donc il est présent. Mais c'est aussi parce que le comtisme et le positivisme sont quand même aussi le fond idéologique de l'Action française, de Maurras. Et le public auquel que vise en premier Lubach, est un public qui a pu, s'il ne l'est plus, il est peut-être encore, mais enfin qui a pu être extrêmement sensible à un moment donné, à l'Action française. Alors, familialement, Lubach a pu sentir ça dans son milieu familial, même si sa famille, pour autant que je sache, en tout cas sa famille paternelle, n'a pas été fascinée par l'Action française. Je crois que dans la famille de sa mère, c'était un peu différent, parce qu'il y avait dans sa famille, aussi bien d'ailleurs paternelle que maternelle, il y avait une assez forte tradition qui s'inscrivait dans le catholicisme social, dans la succession, dans la postérité, dès la Tour du Pin, dès Albert Demain, etc. Donc, si vous voulez, ils avaient des anticorps par rapport à la... Ça n'empêchait pas d'être éventuellement monarchiste de nostalgie, mais il y avait pas mal d'anticorps contre la fascination de la pensée un peu totale, disons, de Charles Maurras. Mais bon, dans la population catholique des années 20-30... et avec peut-être un renouveau en 40 à cause du régime de Vichy, etc., la fascination ou l'impression pouvait être forte de la pensée d'Auguste Comte, qui se caractérisait par le fait de donner une place à l'intérieur des différents âges de la pensée humaine, donner une place à la religion, et en particulier à la religion chrétienne, qui est à la fois une place d'honneur et puis en même temps... une manière de le congédier aussi, et en tout cas de réduire le christianisme à une sorte d'organisation, enfin de préparation d'une organisation sociale universelle parfaite, mais laquelle se ferait en éliminant toute idée de transcendance vivante, idée d'un Dieu à la fois vivant, éternel, présent, actif, etc. Donc je suppose que c'est pour ça que Lubach prend du temps, bon, en mettant aussi, enfin se servant des côtés éventuellement un peu ridicules enfin, dans lesquels le comtisme a pu sombrer. Hein, il finit en évoquant le fauteuil de Clotilde de Vaux. Voilà, en dehors même des orthodoxes purs qui s'y soumettent rituellement, le positivisme assez fidèle et son culte, parce qu'il a son idole, la place de Dieu est bien prise. Bon, on voit que, enfin, quand on lit, ben, on voit bien que le Dieu en question est un peu ridicule, n'a pas grand-chose à voir avec... Mais c'est quand même un enjeu important qu'il développe après, dans le chapitre « Christianisme et catholicisme », de comprendre que le catholicisme est un vrai christianisme. C'est-à-dire que le catholicisme, c'est quand même la religion de Jésus. Ce n'est pas une religion qui part de Jésus pour l'oublier, pour en canaliser les aspects sémites grâce au génie romain. Mais c'est c'est la religion de Jésus de Nazareth et du peuple choisi, du peuple élu, etc., etc. Voilà. Alors après, donc, Lubach fait donc son développement sur Dostoïevski sous le titre Dostoïevski prophète. Alors c'est un terme que Lubach aime bien. Bon, je sais pas, ça pourrait. Il faudrait un petit peu, peut-être un jour, que quelqu'un étudie pourquoi ce que veut dire ce terme de prophète chez Lubach exactement. Je dis qu'il aime bien parce qu'il emploie aussi ce terme de prophète à propos de Teilhard de Chardin, qui n'est pas du tout mentionné ici. Mais chez Teilhard de Chardin, je le dis à Teilhard de Chardin parce qu'il se trouve que j'ai dû étudier ça de nouveau chez Lubach. Et je pense que ça éclaire quand même la façon dont intervient Dostoïevski. Donc Lubach connaît cette guerre parce que c'était deux jésuites. Ils se sont rencontrés dès 1924 à travers un jésuite ami commun, Auguste Valencin. Peu importe ici. Mais si Lubach parle parfois de Teilhard comme prophète, c'est moins dans sa pensée que dans sa personne. C'est-à-dire que pour Lubach, Teilhard, c'est celui qui a porté en lui... Enfin, c'est un homme qui a porté en lui l'immense déchirement, si vous voulez, entre la foi et la science, qui caractérise, enfin qui apparaît, disons, qui traverse voilà, tout le XXe siècle. Il n'a pas fini de le traverser. Mais pour toutes sortes de raisons, Teilhard est à la fois, pour Lubach, un chrétien de très grande classe et un savant de très grande classe, voilà, et qui porte en lui cette double. Vous voyez cette double caractéristique, en portant en lui la tension maximale, mais tout en la tenant, vous voyez, tout en restant dans cette tension qu'il peut y avoir entre ces deux manières d'aide, de comprendre, etc. Il y a d'autres savants catholiques, y compris scientifiques catholiques que Teilhard, mais si je comprends bien, pour Lubach, quelquefois, ils vivent en partie double, vous voyez. On édulcore la tension, on la fait retomber en disant ben, d'un côté je suis scientifique, puis de l'autre côté ou dans d'autres aspects de ma vie je suis catholique, par exemple. Teilhard a la caractéristique d'avoir cherché à tenir ces deux aspects que parfois il appelle la foi au monde et la foi en Dieu ensemble. Non pas comme une contradiction, mais comme une unité dont on ne détient pas la clé. Voilà. Et d'avoir porté ça dans sa chair, voyez, et de l'avoir porté vraiment dans l'unité d'une vie cohérente et d'une vie tout entière tournée vraiment vers le Christ et vers l'adoration de Dieu, qui est une thématique très importante chez Lubach. Si à cette lumière-là, je reviens chez Dostoïevski, je crois que ce qui intéresse Lubach chez Dostoïevski, c'est précisément que Dostoïevski a porté dans sa chair cette tension... Vous voyez, entre la recherche d'une humanité qui, qui, qui à la fois se construit, qui s'organise, qui prend possession du monde, d'elle-même et du monde, à partir d'elle-même. Et puis, la foi en Dieu, et la foi en Dieu vraiment dans le Christ lui-même. Mais il porte dans sa chair cette tension, et il reste dans cette tension. Vous voyez, il ne la résout pas facilement en l'édulcorant, et il ne la résout pas non plus en déchirant, en séparant les deux. Alors, il faudrait tout lire de ce que Lubac essaie d'expliquer. Pourquoi justement contre l'interprétation de Chestov, par exemple. Chestov comprenait Dostoïevski comme une espèce de Nietzsche qui aurait écrit des romans au lieu d'écrire des aphorismes. Alors, bon, Lubac essaie de montrer Dostoïevski comme un véritable chrétien, et ses romans comme portant cette foi vraiment. Je ne vais pas développer tout ça. Ce que je voudrais vous laisser peut-être la parole, vous poser des questions, ou que vous puissiez réagir. Cette partie sur Dostoïevski, dont il faudrait reprendre la construction, donc elle se poursuit par des... Elle se termine par un chapitre qui s'appelle « Expérience équivoque », donc où Lubac affronte la question. Donc tout ça tout ce chapitre est construit à partir des interprétations de Dostoïevski qui avaient cours dans les années 30 et 40. Donc l'interprétation de Dostoïevski comme une sorte de Nietzschéen qui n'aurait pas osé dire qu'il l'était, mais aussi contre des interprétations qui voyaient en Dostoïevski un épileptique qui aurait confondu ses crises d'épilepsie avec des extases. Voilà. C'est ce que Lubac appelle des expériences équivoques. Et Lubac n'a pas peur d'accepter qu'elles sont équivoques, ces formes. Vous voyez, c'est le personnage de l'idiot du prince Nitschkin. Bon, voilà, toute crise d'épilepsie n'est pas nécessairement l'extase de Saint-Thérèse d'Avila. Il ne faut pas tout confondre. Et il y a que parfois chez Dostoïevski, Lubac n'a pas peur de dire, voilà, quelque chose d'un peu équivoque. Mais à partir de cette équivocité-là, Lubac montre comment Dostoïevski élabore ce qu'il appelle des symboles. Dans ces personnages, sont des personnages doubles qui ont plusieurs aspects, plusieurs niveaux, plusieurs profondeurs. Voilà, et Lubac montre comment Dostoïevski, en écrivain, élabore à partir de là des symboles. Mais ce sur quoi je voudrais m'attarder un petit peu pour conclure, c'est donc le tout dernier, la dernière section qui s'appelle « La nouvelle naissance ». Donc c'est en fait un commentaire de Crime et Châtiment. Et dont la clé, si vous voulez, c'est pour Lubac, c'est que... Donc il montre, il rappelle la thématique du roman, ce qui a amené le crime de Raskolnikov. Il fait quelques rapprochements avec ce qu'on trouve dans Les Frères Karamazov. Mais voilà. Ce qui intéresse Lubac, c'est, en particulier chez Raskolnikov, c'est que... Le roman nous amène jusqu'au moment où Raskolnikov se convertit, mais ne raconte pas la suite. C'est-à-dire, ce que Lubac veut montrer, c'est que ce qui est vraiment chrétien, ce que le Christ nous apporte, c'est vraiment une nouvelle naissance. Et que ça ne peut pas se dire complètement par les moyens du roman. Voilà. Et encore moins par les moyens de l'analyse philosophique ou sociologique, ou etc. Il y a une autre vie. Vous voyez, il s'agit de naître à une autre vie. C'est d'ailleurs le sens de l'évangile d'aujourd'hui, tout ce qu'on lit dans le chapitre 3 de Saint Jean, la différence entre tout ce qui vient d'en haut, ce qui vient d'en bas. Voilà, la force, c'est que Dostoïevski nous montre la vie terrestre vue à partir de la vie éternelle, mais évidemment la vie éternelle, l'éternité ou la totale rédemption, eh bien ça ne peut pas se décrire comme cela. Alors, c'est là où il faut que je retrouve le passage. Voilà. Excusez-moi. Comme vous voyez, celui à qui j'ai emprunté ce livre n'a pas l'air de l'avoir lu totalement.
Il est encore entier, oui.
Mais c'est pour ça qu'il est encore entier. Alors, où est-ce qu'elle est cette phrase que je connais ? Parce que. Voilà, pardon, excusez-moi. Voilà. Donc, s'il ne s'était agi, donc c'est à propos de Crime et Châtiment, s'il ne s'était agi que de retracer la lente régénération d'un criminel ordinaire, sa rééducation, sa réadaptation sociale, pour ainsi dire, de raconter les épisodes, c'eût été en effet une œuvre possible, mais Dostoïevski n'eût guère trouvé d'intérêt. Il n'eût pas écrit l'analogue de Résurrection de Tolstoï. Cette morale lui ennuyait. Cependant, c'est de bien autre chose qu'il s'agissait, la découverte d'une réalité nouvelle, l'entrée dans un nouveau monde. Cela, au contraire, l'intéressait prodigieusement, mais cela était indicible. C'était en effet une autre histoire, et il ne pouvait la promettre, il ne l'a pas promise, parce qu'il savait bien qu'elle ne pouvait être écrite. Toute sa psychologie eût échoué, les voies par où Dieu atteint l'homme resteront toujours un mystère. Alors après, il répond à Gide, qui voit dans la conclusion de Crime et Châtiment un passe-partout édifiant sans portée. Et Paul Bach, vous voyez, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que Dostoïevski sent très profondément, pour lui Bach, et aussi bien les frères Karamazov que dans Crime et Châtiment, il amène ses héros, vous voyez, que ces personnages, dans leur complexité, dans leur dédoublement, etc., nous permettent d'arriver au seuil de cette vie nouvelle et cette vie pleine, et qui suppose une nouvelle naissance, qu'éventuellement ils en vivent déjà, ça c'est le personnage d'Alyosha dans les frères Karamazov, mais que cette réalité-là, elle n'est pas tout à fait de l'ordre de ce que l'on peut atteindre avec les moyens ordinaires de l'homme. Alors, Lubac développe ça à propos, voyez, par exemple, à propos de la communion. Le royaume auquel accède Raskolnikov est un univers de communion. Raskolnikov, dans ce nom, il y a Raskol, qui signifie schisme, division. Son crime l'a séparé de ses frères les hommes. L'orgueil, surtout, de la théorie qui l'a conduit au crime. C'est la raison pourquoi Sonia exige de lui qu'il en fasse pénitence publique. Retranché du genre humain, il n'y sera réintégré que par la conversion de son cœur. Kirillov aussi, etc. Ce monde terrestre, le monde objectif de la société humaine, est un monde de séparation et de solitude, quelles qu'y puissent être les réalisations communautaires. Car c'est un monde de péché. Dostoïevski ne s'oppose pas à ce qu'on l'améliore, mais il nous avertit que cette amélioration par elle-même ne sert en rien à résoudre le problème de l'homme et de la communion humaine. La plus parfaite des sociétés pourrait être le plus horrible des enfers. Oui, on revient là, vraiment et par le fond, à la théorie, enfin pas à la théorie, mais à la thèse, si vous voulez, que Lubac exprimait dès l'avant-propos de son drame de l'humanisme athée, c'est-à-dire que les humanismes athées prétendent apporter une solution ou des solutions diverses aux problèmes humains, que de fait il y a des tas de choses à résoudre, à améliorer, etc., mais qu'en réalité, vous voyez, on ne résout jamais le problème humain en lui-même. Le problème humain dans toute sa profondeur, il ne peut être résolu que par en haut, que d'en haut. Voilà. Et ça suppose donc ce que Lubac, après Jésus lui-même, appelle une nouvelle naissance. Et voilà, Dostoïevski, pour lui, aide à le voir, et la place des chrétiens, ou le rôle des chrétiens dans le monde, n'est pas de dire, puisqu'il n'y a pas de solution au problème humain, ne cherchons pas de solution aux problèmes humains. Au contraire, il faut les chercher, il faut... Mais il faut être conscient que tout en cherchant, plus nous chercherons, plus nous progresserons dans la solution des problèmes humains, plus apparaîtra, vous voyez, que le grand problème qu'est l'homme, eh bien, celui-là, l'homme ne peut en recevoir la pleine solution, disons, que par en haut, par donc l'œuvre du Christ et le don de l'Esprit. Voilà, ça suffit, je pense, pour vous parler. Alors, avant d'aller chanter, dès qu'on prend la parole de chanter. Allez-y.
Oui, donc, tout simplement pour revenir sur le caractère voilà, un peu composite et disparate, en fait, moi je pensais qu'il y aurait une certaine symétrie quand même. Dostoïevski, enfin, comme vous l'avez dit, répondrait à Nietzsche et aussi un peu à Marx, enfin, un peu Urbain à travers Marx. Mais c'est vrai que Comte, effectivement, enfin, ce que vous avez dit, que j'avais un peu pressenti, peut-être en disant que c'est surtout une réponse à l'action française, c'est donc développement sur Comte, parce que quand même, par rapport à Nietzsche et à Marx, il ne fait pas le poids. Enfin, Nietzsche et Marx donc, voilà, ont eu des intuitions qui ont pensé les chrétiens désormais à réfléchir vraiment là-dessus, comme que Comte, c'est l'athéisme du simple d'esprit, enfin, c'est le stupide du deuxième siècle, c'est vraiment. C'est très drôle.
Est-ce que c'est pas le plus diffusé, justement? Parce que Nietzsche, c'est d'être un peu l'élite, c'est l'athéisme de l'élite, mais...
Bah, je sais pas, on a une conférence sur l'athéisme post-moderne, et je pense que c'est celui-là, mais aujourd'hui, heureusement, le plus diffusé. Ouais. C'est déjà plus celui de Comte.
Non, mais je suis d'accord avec vous, donc...
Oui. Donc vous avez créé cet élément de critique de l'action française, est très...
C'est très important,
ce côté, voilà, Momora, c'est pas positiviste au sens concerne, mais effectivement, il y avait encore une grande... une énorme influence sur les France du catholicisme à cette époque. C'est ça qui est éclairant. Ma question, en fait, c'est pourquoi il n'a pas fait... Ce qu'on fait souvent, c'est voilà, les mettre au soupçon, Nietzsche, Marx et Freud. Et alors, il me semble qu'à un moment, il cite un tout petit peu Freud pour Dostoïevski, mais pourquoi est-ce qu'il était déjà suffisamment connu et suffisamment reconnu pour qu'il en fasse tout un chapitre
voilà. Non, mais je pense que donc c'est une très bonne question. De fait, Lubac, je ne vois pas tellement. Il en parle un tout petit peu de Freud, effectivement, au propos de Dostoïevski. Bon, on peut pas dire. Donc, je pense qu'il n'a pas la compétence. Il n'a pas acquis la compétence pour le faire. Je ne crois pas qu'il ait beaucoup travaillé la psychanalyse. Alors, les raisons pour lesquelles il n'a pas travaillé, je ne le sais pas. Je ne sais pas toutes, ça veut dire quelque chose. Ce qui est sûr, c'est que les auteurs, encore une fois, les auteurs qu'il étudie, donc, sont très conditionnés par le contexte dans lequel il a rédigé son œuvre, hein, et par la portée donc, politique, hein, par les conséquences politiques. Voilà. On peut dire que Freud n'a pas de portée, enfin, pas de portée politique, en tout cas pas directe. On peut sûrement y en trouver.
Pas encore,
pas à ce moment-là, etc. Voilà, on ne peut pas... Donc, après, on peut
toujours.
Oui, c'est ça. Voilà, on n'est pas tout à fait. On n'est pas là. On n'est pas en mai 68. Et vous avez tout à fait raison. Donc ça, c'est un premier élément. Voilà. Après, pourquoi est-ce que Lubac, dans la suite, n'a pas davantage travaillé? Il s'est passionné après 68. Plus pour Joachim de Flore, qui était un moine calabré du XIIe siècle, que pour Freud. Alors, on peut voir ça comme un aveuglement. Je crois qu'il a vu d'autres choses. C'est-à-dire, ce qui intéresse Lubac, c'est dans le fond, c'est cette édition, la théologie de l'histoire. Voilà. Peut-être aussi qu'il y a une espèce de pudeur d'homme du XIXe siècle, vous voyez, devant ce que Nietzsche, enfin, un Freud peut raconter, hein, qui est tout un univers dans lequel. Enfin, je sais pas, moi, j'ai pas fait la psychanalyse du père de Lubac et j'en ai jamais parlé avec lui. Je l'ai jamais rencontré vivant. Mais je suppose que c'était des sujets sur lesquels il n'était pas préparé à travailler.
En théologie, c'est récent. Hein. Moi, Albert Chappell a beaucoup travaillé la psychanalyse.
Oui, voilà.
Pour voir son rôle dans la constitution du symbole. Ce qui n'est pas étranger, quand même, à la pensée de Lubach.
Non, mais tout à fait.
Avant lui, je ne sais pas si théologiquement, il y a toujours des gens qui ont parlé, il y a eu Vergotte et ça, mais je ne pense pas que de prendre Freud comme une source d'inspiration presque métaphysique, je ne sais pas si ça a été tellement fait en théologie.
Non, je ne pense pas. Non, ouais. pas si tôt, pas si vite. Alors, donc ça pose la question de savoir est-ce que finalement un livre comme Ravine d'Anismaté parle de systèmes de pensée ou de modes de pensée qui sont complètement dépassés, vous voyez, parce qu'on serait dans d'autres formes d'athéisme, de... Voilà, alors, ça, je ne sais pas, parce que vous connaissez mieux que moi les athéismes dans lesquels vous baignez. Oui, allez-y.
Non mais moi, juste pour répondre à Jean-Denis, est-ce que justement, Freud, c'est pas aussi... La thèse de vrai zéro, à l'inverse de Marx ou Nietzsche, qui ont une pensée extrêmement tranquille et athéiste, Freud qui réduit la croyance en Dieu en un complexe filial par rapport au père, est-ce que là, si Lubach aurait vraiment travaillé cette question, il ne serait pas arrivé à une impasse rapidement de voir
Oui, alors, de fait, vous avez raison.
Cette contestation de la foi aussi, aussi brute et sans profondeur comme peut-être celle de Nietzsche qui est extrêmement profonde.
Donc pour ce qui est de l'athéisme de Freud au sens strict, il y a quelques éléments chez lui quand même dans quelques écrits sur l'origine de la religion. Mais qui est c'est pas son plus grand texte, mais quand même un texte assez intéressant. Qui reprend les conclusions sur les chemins de Dieu. Pas souvent, donc de fait à ce côté un petit peu, mais là aussi. Voilà, chez Freud, plus encore, alors pour le coup, plus que chez Nietzsche ou que chez Marx, etc., le côté option, vous voyez, choix spirituel, le point de départ du refus de Dieu est très net. Pourquoi est-ce qu'il est athée ? Non, parce qu'il est athée. Après, il fait tout un. À partir de là, il justifie son athéisme de toutes sortes de manières, enfin, comme il veut. Mais il y a un point de départ. Alors, voilà, d'où vient ce point de départ ? Voilà, alors c'est là où l'enjeu qui intéresse Lubach, c'est pas de réfuter Freud, d'ailleurs pas plus que Marx, etc., c'est d'inviter les chrétiens à puiser dans la richesse chrétienne de quoi vivre, encore une fois, leur humanité dans sa plus grande profondeur pour eux. Parce qu'il n'y a que ça qui fait échapper à la... Enfin, qui rend l'objection... athée impuissante ou, vous voyez, n'atteignant pas sa cible.
Voilà. Est-ce que vous avez, peut-être au début de votre conférence, vous nous avez donné un élément, en fait, parce que ce que voyait Lubach, c'était la fascination que pouvaient exercer des systèmes assez élaborés qui exaltaient l'homme. Freud, on peut plutôt dire qu'il humilie l'homme. Mmh. Quand il dit à l'homme qui, justement, fait de la métaphysique ou de la poésie, mais en fait, pour l'essentiel, ça démarre en dessous de la ceinture. On peut dire que tout le monde... Et d'ailleurs, il y a des grands... Je pense à Michel Onfray, qui est plutôt athée. Il déteste Freud. On voit bien que... Alors peut-être qu'il estimait que ce n'était pas un adversaire dans tes...
Voilà. Ouais, il était pas dans ces termes-là, en tout cas, oui. C'est l'ambiance du temps, etc. Ouais. On est avant 68. Après, il y a eu d'autres formes d'athéisme. Ce qui... Voilà. Moi, il me semble quand même que là... Donc, comme je le disais en commençant... La manière, vous voyez, de Lubach de recevoir la provocation de l'humanisme athée et d'y répondre par un surcroît, un approfondissement à la fois de foi et de vie chrétienne et aussi de plonger dans les ressources de la foi chrétienne, ça me paraît exemplaire. Si vous voulez. Après, il faut le transposer selon les époques, sans doute, mais ça me paraît très instructif et très, très important. D'autre part, je pense quand même que la postérité, tant de Marx que de Nietzsche, n'est jamais épuisée et ne sera sans doute jamais épuisée. En tout cas, je ne sais pas ce qu'il en est du système économique, de Marx. Vous voyez, ça c'est une autre question et encore moins du système social qu'on peut en tirer. Mais malgré tout, il y a une puissance. Il y a en tout cas, Lubach pense, hein, il le dit. Qui a une puissance spirituelle quand même chez Marx il y a une manière d'essayer d'honorer le problème spirituel de l'homme tout en espérant le faire disparaître par une réorganisation sociale qui est entré dans l'humanité, qui ne va pas en disparaître comme ça. Et Nietzsche, d'une autre façon, dans sa manière de penser l'homme, à la fois, voilà, sa manière un peu tragique de penser l'homme, introduit aussi des thématiques, des positions, des attitudes qui ne vont pas s'en aller comme cela. L'autre texte que je citais, sa leçon à la semaine sociale de 47, enfin je dis sa leçon parce que c'est comme ça qu'on parlait à l'époque, à sa conférence, on dirait aujourd'hui, Lubac a pas mal insisté, j'aurais voulu vous l'apporter puis je suis parti sans, Lubac insiste sur la question de la technique, enfin sur le fait de la technique. Et vous voyez, en 47, parce que il insiste sur le fait que le dernier pas, le prochain pas de la technique, parce que, donc il insiste sur le fait que la technique permet, je dis ça de tête, mais je crois que la deuxième, donc il y a la prise sur la nature, la matière, etc. Il y a la prise sur les masses, le conditionnement. À cette époque, en 47, on est très sensible à ça, vous voyez, l'action sur les masses, la psychologie des masses, etc. Et après, Lubac dit, l'étape après, c'est l'emprise sur le vivant, sur la vie elle-même. Voilà, donc, c'est pour ça que c'est toujours un petit peu, enfin, c'est intéressant de lire ce genre d'auteur, et c'est en même temps parfois toujours un peu désespérant, parce qu'on se dit, les questions qu'on se pose en 2000, qu'on a l'impression qu'on découvre, en fait, depuis 47, on pouvait les nommer, même si... Parce qu'en fait, on trouve ce qu'on cherche, quand même, c'est-à-dire... Les hommes trouvent ce qu'ils cherchent. La prise sur la vie, tout le développement de la biologie n'est pas sorti de rien. C'est comme sorti de projets humains qui ont des racines lointaines. Vous voyez, c'est pas. Et puis ça correspond, je crois, à cette dignité spirituelle de l'homme qui peut agir à part, enfin, qui peut être acteur de sa propre vie et qui ne peut pas. De ne pas vouloir l'être dans toutes les dimensions de sa vie. Alors comment est-ce qu'on peut vivre la dépendance par rapport au Créateur, non pas comme une humiliation, non pas comme un écrasement, non pas comme, mais au contraire, voyez, comme une surexaltation. Alors vous avez dû, enfin peut-être que vous avez fait lire le tout début de, pas l'avant-propos, mais le premier chapitre de, je crois que c'est le premier chapitre. Du drame de l'humanisme athée, qui s'appelle donc Un malentendu tragique, où Lubac commence en réfléchissant ou en méditant sur la question de l'image de Dieu. Donc, dans l'Antiquité, connais-toi toi-même, c'est l'homme, connaît ta fragilité, ta petitesse, ne te prends pas pour un Dieu. Et puis le christianisme vient au contraire dévoiler que tout homme est à l'image de Dieu, y compris les esclaves, y compris les femmes, y compris les enfants, les plus petits, et que l'homme n'est pas soumis à un destin, il n'y a pas de destin. Il y a une liberté de l'homme, donc il y a une grandeur de l'homme. Mais, justement, dit-il, ce qui a été vécu dans les commencements du christianisme comme une sorte de libération, a fini par se retourner, et là où au Moyen-Âge on pouvait dire que donc pour l'homme, être à l'image de Dieu, c'était une glorification. On a fini par le penser comme une humiliation. Il y a une belle formule latine. Voilà. Non, c'est pas ici qu'elle est la plus belle. Donc c'est dans le mystère du surnaturel, peu importe. Mais vous voyez, je vous lis quand même, ça peut peut-être conclure ces lignes. Donc, l'humanisme athée, dit Lubac, ne se confond en aucune façon avec un athéisme jouisseur et grossement matérialiste, phénomène toujours banal qu'on rencontre à toutes les époques, qui ne mérite pas qu'on s'y arrête. Il est tout le contraire d'un athéisme désespéré. Il ne suffirait pas non plus de le nommer un athéisme critique, il ne se présente pas comme le simple résultat d'un problème spéculatif, ni surtout comme une solution purement négative, comme si l'intelligence avait enfin pu démontrer que Dieu n'existe pas. Le phénomène qui domine l'histoire de la conscience en ces derniers siècles apparaît à la fois plus profond et plus arbitraire. L'intelligence n'y est pas seule engagée. Le problème posé était un problème humain, c'était le problème humain. Et la solution qu'il reçoit est une solution qui se veut positive. L'homme élimine Dieu pour rentrer en lui-même, en possession de la grandeur humaine. Voilà. Moi, personnellement, j'aime bien cette thématique du problème humain que le Christ vient encore complexifier. Voilà. Alors que souvent, notre tentation, c'est de chercher toujours un apaisement ou un amoindrissement du problème humain. Et il me semble que dans le monde complexe, sophistiqué, etc., dans lequel nous sommes, avec tous ces enjeux, ces débats, c'est toutes les choses éventuellement terrifiantes que l'homme peut faire, mais aussi les belles choses quand même. Il ne faut pas que nous ayons... Ouais, enfin, nous avons été témoins d'une grandeur de l'homme qui est plus grande, d'une liberté, d'une profondeur de l'homme, qui sont plus grandes que... encore plus grandes, voilà. Que tout ce que l'homme croit saisir en se saisissant lui-même et en se fabriquant lui-même. Voilà, ça peut vous inspirer.